Bonjour à tous. Ça va bien? C'est bientôt mon anniversaire, dans 363 jours. Non, mais je vous remercie pour tout ce que vous avez fait déjà, et puis encore, ce qui va arriver, je sais qu'il y a un repas pantagruélique, c'est comme ça qu'on dit, qui nous attend. Une bonne raclette suisse, ça vient pas de chez Jean Daniel, mais bon, c'est quand même une bonne raclette, ça va être formidable, tous ensemble, c'est des bons moments. Eh bien, voilà, je veux aussi remercier tous ceux qui m'ont écrit, des SMS, des mails, des téléphones. C'était vraiment gentil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis aussi sur Facebook. Enfin, voilà, c'était formidable. Alors, on va voir le psaume 134 ce matin. Psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il y a deux parties. Hein. Il y a d'abord jusque là au verset 1 et 2. Et puis ensuite, c'est que l'Éternel te bénisse de Sion. Amen. Vous avez compris? Une petite nuance. Hein. Gloire à Dieu. Ce matin, ça va être encore un peu spécial. Se tenir dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Ah, ça, c'est mon petit-fils que vous entendez. C'est Timothy. Il a quel âge, Timothy? 9 mois. Mais il a déjà une bonne voix, hein? Il n'a pas besoin de micro comme papy. Se tenir dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Ça, c'est tout un programme, hein? Alors que de nos jours, les églises sont ouvertes aux heures de réunion, point final. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on peut louer l'Éternel, servir l'Éternel pendant les nuits dans la maison de l'Éternel? Ah ah! Dans l'évangile de Thomas, on lit « Heureux les monacos ». Monacos, ça signifie les solitaires. Vous vous rappelez de ça? Hein, on l'étudie ensemble. Vous pouvez le trouver aussi sur Révélation Bible. Ceux qui se sont mis à part pour servir Dieu dans sa maison. Voilà les monacos. Les monacos, les solitaires. Hier, je parlais avec mon ami du Canada, Emmanuel Pradey, que je salue là encore aujourd'hui. Et nous parlions, il m'a dit, j'ai regardé Luc 14, 33, parce qu'il a remarqué dans mes écrits que j'insiste beaucoup sur Luc 14, 33. Vous connaissez le verset, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et il m'a dit que ce texte ne concernait pas seulement que les biens matériels. Quiconque ne renonce pas à tous ses biens, ce n'est pas seulement les biens matériels. Il me disait, un disciple, même s'il n'a rien, il a toujours quelque chose à donner. Par exemple, son savoir-faire. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, son savoir-faire. Alors vous voyez que dans la maison de l'Éternel, on donne tous ses biens et cela fait de nous des disciples qui commencent en fait. Il me disait aussi c'est dans le temps, c'est un moment, un départ dans le temps. Quiconque ne peut pas être mon disciple si on ne renonce pas. Et alors à partir du moment où on a commencé à renoncer, alors après il y a le temps, il y a le avant le renoncement et après le renoncement. Et quand on rentre dans le renoncement, on rentre dans le renoncement. C'est-à-dire, c'est vraiment le renoncement. On renonce jour après jour, après jour, après jour. On n'est pas des disciples d'un moment donné, entre 10h et midi au culte le dimanche matin, puis après on sort pour aller fumer sa cigarette. Enfin là, je schématise un petit peu. Non, un disciple, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu, qui est au service de Dieu, qui vit dans les frères et dans les sœurs. On vit dans un royaume, on ne vit pas au pied du trône de Dieu en ignorant ce qu'il y a autour de ce trône. Le trône de Dieu, ça veut dire que Dieu, il est le roi, c'est celui qui gouverne, mais il gouverne sur un royaume. Et quand on est dans ce royaume, on est au service de Dieu qui est le roi, mais des sujets de ce roi, du territoire, et on travaille là-dedans. Et on est appelé des monacos, c'est des solitaires, c'est-à-dire qu'on s'est séparé du reste. Des fois, je vous dis, quand on a passé le portail du château, ça y est, on est dans le monde. Il faut que nous cultivions un état d'esprit à l'intérieur, dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire. Voilà pourquoi on appelait le château le sanctuaire, le sanctuaire. Un disciple, il est serviteur dans le royaume, premièrement. Et puis, il va aussi dehors pour ramasser ce qu'il y a et pour le ramener dedans. Comme ça se fera dans le paradis, d'ailleurs. On ramènera des nations... Tous les biens pour les ramener dans la Nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas écrit? Eh bien, c'est pareil. Et nous qui allons, on va dans les nations, dans le monde, pour ramasser les biens dont nous avons besoin dans le royaume, pour servir le royaume, pour être utile dans le royaume, pour construire le royaume, pour donner au royaume de Dieu une valeur non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Alors, nous sommes là au service de Dieu, du roi et de ses sujets, c'est-à-dire des monacos, de ceux qui se sont séparés du système de l'esprit qui mène le monde. On sait bien qui c'est qui mène le monde, hein. Des gens disent c'est le Satan qui mène le bal. C'est vrai, c'est vrai. Alors, rendre un culte agréable à Dieu ne consiste pas à lever les mains, à louer en chantant aux heures de réunion. Dire oui, mais moi aussi je loue Dieu dans ma cuisine, c'est bien, c'est bien. Rendre un culte à Dieu, c'est lui consacrer notre corps, notre être tout entier, notre corps, nos forces, nos facultés, c'est mettre tout cela, tout ce qui nous concerne, à la disposition du roi et des sujets. C'est le servir, premièrement, dans sa maison. C'est dans sa maison. Israël, c'est son pays, mais dans son pays, il y a sa maison. C'est bien si vous faites partie du pays, c'est mieux si vous êtes dans sa maison. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans sa maison que vous n'êtes pas un chrétien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en communauté que vous n'êtes pas un chrétien, mais vous n'êtes pas dans la maison, vous êtes dans le pays. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. On le sert premièrement dans sa maison, qui est l'Église, son royaume terrestre, la Jérusalem terrestre, la communauté, acte 2, acte 4, Luc 14, 33. Psaume, combien déjà ? Ah, qu'il est doux pour des frères. 133. Moi, les chiffres. C'est offrir à Dieu une offrande vivante, pas seulement la dîme, une offrande vivante. C'est ça, le culte. Mais c'est s'offrir soi-même en se mettant à part pour cela, monacos, en se mettant à part pour cela. Toute ma vie doit servir Dieu, jour et nuit. Et mes frères et sœurs, après la résurrection, il y avait un culte avant. Mais après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, eh bien, il y a eu un culte nouveau. Et nous n'avons pas à copier sur le culte des Juifs. C'était très bien, mais c'était l'ancienne alliance. Et les chrétiens ont repris le système de l'adoration et du culte juif, c'est-à-dire des assemblées, des synagogues. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a un culte nouveau maintenant, un culte qui a un sens véritable, un culte logique, pas seulement des chansons, des louanges, avec des gestes rituels. Non, 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 non. Le culte que Dieu attend de nous, c'est un culte qui doit être conforme à ce que la raison demande. Ça doit être intelligent. On doit comprendre ce qu'on est en train de faire. Ça doit être intelligent dans le sens que ça doit être utile. Écoutez les chrétiens d'aujourd'hui, par exemple. Ils vous disent, on va au culte. Vous avez déjà entendu ça. Les catholiques disent, on va à la messe. Les protestants disent, on va au culte. Hein, les pentecôtistes, les baptistes, tout ça, ils vont au culte. C'est déjà, ça ne veut rien dire. Parce que déjà, le mot culte, ça signifie hommage rendu à Dieu. Alors, quand ils disent « je vais au culte », s'ils devaient le dire en français, ça voudrait dire « je vais à l'hommage rendu à Dieu ». Ça ne veut rien dire. On ne va pas au culte. On rend un culte à Dieu. Et on ne le rend pas seulement le dimanche entre 10h et midi. Le culte, c'est tout le temps. Alors, parce que les traditions ont fait que maintenant c'est devenu comme ça, on va au culte, alors nos chers académiciens ont changé la signification du nom, du mot culte. Alors vous allez voir dans le dictionnaire, il y a plusieurs significations. Mais la première, c'est hommage rendu à un dieu ou à une déesse ou à une personne qu'on estime énormément. Ou alors, deuxièmement, c'est parce que faut les gens ont changé la signification, donc maintenant, ça veut dire tout autre chose. Le mot culte, changeant de signification, ça signifie maintenant cérémonie. On va au culte, c'est-à-dire on va à la cérémonie durant laquelle on rend un hommage à Dieu. Le culte est devenu un office religieux, vous voyez ? C'est la perversion. C'est pas, le mot ne doit pas changer sa signification parce que les gens changent. Dieu ne change pas. Il a changé une fois le culte. À partir du moment où Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel, le culte est devenu nouveau. Eh bien maintenant, on doit rester dans ce culte-là, ce culte que Dieu veut, on n'a pas à changer ça. Le culte que Dieu agrée n'est pas une cérémonie, pas du tout. Là, par exemple, on est dimanche matin, on est dans cette chapelle, c'est magnifique. La plupart des chrétiens sont aussi réunis partout dans le monde, enfin, pas en Amérique, parce qu'ils sont en train de dormir là-bas en ce moment, mais du moins dans nos pays ici, il est à peu près 10h, il est 11h05, voilà, ils sont tous au culte. Ils sont au culte. Nous, on n'est pas au culte, on est simplement dans un endroit chauffé parce que c'est l'hiver, pour venir nous instruire de la parole de Dieu et pour avoir un moment où nous louons le Seigneur avec nos bouches. Voilà, c'est tout. C'est tout, mes frères et sœurs. C'est tout. Le reste du temps, c'est beaucoup plus important. C'est la mise en pratique de cette parole que nous avons entendue ici et les louanges, non pas seulement en parole, mais en action. Les louanges en action. Le monde religieux fait comme il veut, mais nous, nous ne sommes pas des religieux. On a décidé de ne pas être des religieux. On a eu ce courage de se séparer, d'être seul. Mon frère Manu me disait, mais c'est unique ce que vous vivez. C'est unique. Et il a parlé de notre expérience à un théologien de ses amis qui a dit, mais je n'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. Oui, il y a quelques trucs qui existent aux États-Unis, mais ce n'est pas tout à fait. Voilà, voyez, nous sommes ses disciples, Luc 14:33, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne nous conformons pas aux principes qui régissent le siècle présent, que ce soit dans le monde ou dans la religion. Nous ne copions pas les modes et les habitudes des gens religieux. Nous ne voulons pas. Ce n'est pas parce qu'on veut paraître différent, c'est parce qu'on veut être différent. Nous sommes séparés. C'est ça que ça signifie, nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part, monacos, c'est-à-dire solitaires. Jugés comme des francs-tireurs, peut-être. Tant pis. Le regard des gens ne nous importe peu. Ce que nous voulons, c'est que le regard de Dieu sur nous soit un regard de Père qui est attendri en nous voyant faire des efforts pour le servir du mieux qu'on peut. Nous sommes hors du royaume des ténèbres, dans le royaume dont il est le roi. Et nos vies entières, avec notre corps, nos facultés, nos forces, nos talents et tout, s'est mis à la disposition de Dieu et de son royaume, c'est-à-dire de ses sujets en premier. En premier. Ce n'est pas les pauvres en premier, c'est les gens de la famille de Dieu en premier. Mais après, on donne aux pauvres. Mais c'est d'abord dans la maison de Dieu. Ce n'est pas l'humanitaire en premier, c'est d'abord la maison de Dieu. Et si on fait de l'évangélisation, c'est pour agrandir la maison de Dieu. C'est pas pour autre chose. C'est tout par rapport à la maison de Dieu. Alors, on a imprimé cette brochure qui s'appelle « Miracle ». Et vous pouvez la télécharger sur, puisque maintenant Richie l'a mis, Eric Ruiz l'a mis en PDF, vous pouvez l'imprimer, c'est magnifique. Qui parle du renouvellement de toutes choses. On commence à expliquer un petit peu aux frères et sœurs de l'extérieur qu'est-ce que c'est ce renouvellement de toutes choses. Eh bien, c'est pas simplement parce que Dieu a rétabli les dons surnaturels et ces choses-là dans l'Église que c'est fait. Non. Le culte doit être renouvelé dans l'Église. Il ne s'agit pas de simplement inverser certaines choses dans l'ordre du culte. Par exemple, mettre la Sainte Cène à la fin, si on avait l'habitude de la mettre au début, et de chanter des chants différents, de balancer les vieux cantiques qu'on a depuis des années pour en mettre des nouveaux, ça ne suffit pas pour le renouvellement. Il ne s'agit pas de chanter des chants plus modernes ou moins modernes, non. Le renouvellement du culte que nous devons à Dieu passe par une adoption. Nous devons adopter une attitude nouvelle, différente, une attitude différente, en revenant tout simplement à la source. Frères et sœurs, comment les disciples de Jésus, juste après la Pentecôte, comment rendaient-ils un culte qui pouvait être agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que c'était ce culte? Alors, on lit les Écritures pour savoir, on sonde les Saintes Écritures pour savoir, on sonde aussi l'histoire de l'Église. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui nous ont précédés. Et en faisant ça, nous donnons à nos pensées une nouvelle orientation. Parce que tout passe par la pensée. On ne peut pas faire une chose avant d'y avoir pensé. Donc il faut nourrir notre pensée avec quelque chose. On ne doit pas simplement dire, oui, c'est vrai, il y aurait besoin de certains changements, et puis rien faire. Beaucoup de chrétiens disent, oui, c'est vrai, dans les églises, aujourd'hui, il faudrait que les choses changent. Mais ils ne bougent pas. Nous voulons bouger. Frères et sœurs, il y a une petite phrase que j'ai lue quelque part et qui m'a plu, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai pour moi, en tout cas dans ma vie, j'aime ça, et je sais que pour vous aussi. Ce qui nous manque, c'est ce qui nous instruit. Quand on voit un manque, alors ça nous instruit, parce qu'on cherche et on trouve, quand on cherche, on finit toujours par trouver. Ça, c'est la promesse de Jésus. Mes frères et sœurs, en lisant les Saintes Écritures, en étudiant l'histoire de l'Église, eh bien, ce n'est pas la connaissance que nous cherchons. C'est la certitude. C'est la certitude. Qui peut me dire qu'il a la certitude que le culte tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans les églises, c'est ça que Dieu veut? Je défie, personne ne peut venir me dire ça. Je veux discerner ce que Dieu veut de moi. Je veux discerner ce que Dieu veut de l'église, du moins en tout cas de notre église locale. Et c'est qu'en donnant à notre pensée la possibilité d'une autre orientation qu'on va pouvoir y arriver, vous ne pensez pas? Dans la prière, dans le respect des Saintes Écritures, dans le respect de ce qu'ont vécu les anciens, dans l'histoire, en lisant, en étudiant l'histoire. Nous ne pouvons pas devenir capables de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu si on ne passe pas par là. Si on continue simplement à faire comme c'était il y a 10 ans, en disant, oui, mais on a beaucoup changé parce que maintenant il y a des trompettes. C'est vrai, il y a 10 ans, il n'y avait même pas de batterie. Hein. Quand il y avait une batterie dans une église, on disait que le pasteur était rétrograde. Non, peut-être pas il y a 10 ans, mettons, il y a 20 ans. Le temps passe vite, hein. Nous devons savoir ce qui lui plaît. Et nous devons savoir qu'est-ce qui va nous conduire à une réelle maturité. Paul avait un ministère, Paul il avait des dons, et il s'en réclame disant, voilà, j'ai un ministère, j'ai des dons, alors je me permets de vous inviter, vous qui me lisez, à vous efforcer, et il donne 5 points. Et mes frères et sœurs, ces 5 points sont très importants. C'est là que nous devons faire un effort. On nous prêche aujourd'hui que le développement personnel, on nous prêche aujourd'hui la vie abondante, la réussite et toutes ces choses. Mais maintenant, l'apôtre Paul, écoutez, ça ne va pas du tout dans ce sens-là. C'est vrai que c'est bien, là, toutes ces choses-là. Mais écoutez bien, voilà ce qu'il dit Paul. Efforcez-vous de vous faire une idée juste à votre sujet. Ensuite, il dit deuxièmement, n'ayez pas de vous-même une opinion exagérée au sujet de votre importance. Troisièmement, ne surestimez pas vos capacités. Quatrièmement, ne pas aspirer à ce qui dépasse vos possibilités. Maintenant, on pourrait dire, oh, mais Paul, tu manques de foi. Au contraire, il faut aspirer à ce qui dépasse nos possibilités pour glorifier le nom de Jésus. N'est-ce pas un peu ce qui est enseigné? Oui, c'est vrai. Mais Paul disait, non, non, non. Et cinquièmement, acceptez vos limites. Alors, quelles limites? Eh bien, acceptez les limites qui sont tracées par les dons que nous avons reçus en vertu de notre foi. Donc, notre foi. Si nous augmentons notre foi, et ça ne peut pas augmenter sans que la pensée soit instruite. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on apprend, de ce qu'on cherche, de ce qu'on trouve. Si on n'augmente pas notre foi, c'est-à-dire la connaissance des Écritures, afin d'avoir une certitude, nous ne pouvons avoir que une trace limitée pour pouvoir évoluer. D'accord? Et la foi, ce n'est pas du culot. La foi doit reposer sur l'Écriture. Sur l'Écriture. Nous devons accepter les limites que tracent les dons que nous avons reçus en vertu de notre foi. Quels dons? Eh bien, les dons naturels et les dons surnaturels. Excusez-moi une seconde. Quand on écoute Paul et qu'on adopte ces 5 points qu'il nous donne là, on apprend assez rapidement qui on est, ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Parce qu'on a une vue claire. On ne risque pas de se tromper. Et à ce moment-là, on n'est plus à même de servir Dieu dans sa maison, jour et nuit, en lui rendant un hommage par notre vécu. Pas simplement entre 10h et midi. Vous voyez, mes frères et sœurs, tout se tient magnifiquement bien. Rien n'est illogique. Tout cela, c'est de l'intelligence. Mais le problème dans l'Église de Jésus-Christ, le problème, c'est la nonchalance. Le problème, c'est la nonchalance. Le peuple s'engourdit dans un sommeil qui n'est pas un sommeil réparateur du tout. Ça ne renouvelle rien, ça ne répare rien. Et mes frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous avons tous cette tendance à la nonchalance, à l'endormissement. Et c'est là que nous devons faire attention. Nous avons tous des talents, nous sommes tous différents. Alors, nous sommes appelés à servir le Seigneur dans chaque journée et dans chaque nuit. Et nous devons considérer que nos journées et nos nuits sont des temps que Dieu nous a donnés afin que nous les consacrions à son royaume et à lui. Je dis bien à son royaume et à lui parce qu'on a trop souvent dit qu'il faut se consacrer à Dieu. Il faut se consacrer à Dieu et à son royaume. Moi, je sais que depuis que je suis tout jeune chrétien, j'ai vu le premier problème dans l'Église, c'était que il y avait, quand on disait au culte, hein, venez au culte. Alors là, il y avait 150 personnes. Venez à la réunion de prière, il y en avait 20. Et qui c'est qui veut faire le ménage? Pchit, comme disait Chirac. Hein. Qui c'est qui veut venir faire le ménage dans l'Église? Pchit. Vous voyez, servir Dieu, que ce soit fait par amour, pour Dieu, le Père, notre Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs qui sont les sujets de ce royaume. On ne peut pas servir Dieu si on ne sert pas ses frères et sœurs. Et puis nous devons aller servir Dieu dans ce monde, c'est-à-dire pour arracher des flammes ceux qui se perdent, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est autre chose. Paul, il est sage, il dit aussi quelque chose de très fort, parce qu'il est prévoyant, il connaît la race humaine, et il dit, et s'il y a dans le royaume, parce qu'il parle toujours aux gens du royaume, pour les gens du royaume, il dit, et s'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible dans le royaume, gardez-vous de prononcer des malédictions contre eux, demandez plutôt à Dieu de les bénir, Romains 12, vous lirez tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est là dans Romains 12. Mais tout cela concerne la vie des monacos, des solitaires, de ceux qui vivent jour et nuit dans la maison de Dieu, de ceux qui se sont séparés du monde et de la religion, qui sont sortis de ce monde où tout le monde s'est coulé et qui vivent jour et nuit dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Et voilà pourquoi les autres n'y arrivent pas. Parce que ce n'est pas pour eux. Pour ce qui concerne ceux de l'extérieur, nos pouvoirs sont vastes et puissants, mais la Bible nous dit, faites attention, bénissez, ne maudissez pas, bénissez, attention. Parce qu'on aurait tendance à entendre, bénissez. Alors le problème, c'est que trop de gens disent, Seigneur, bénis-moi. Et vous savez que ça vient d'une ignorance crasse, terrible. La plupart ne savent pas ce que ça signifie « bénis-moi » et demandent à Dieu « bénis-moi ». Vous demanderiez quelque chose, vous, si vous ne savez pas ce que c'est? Non, vous avez trop peur. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait Yves Brugère, mon copain, il m'a dit « tu sais ce que c'est une moleskine ?» J'ai dit « non ». J'ai dit « qu'est-ce que ça peut être une moleskine ?» Alors, je cherchais dans le dictionnaire, je ne trouvais pas le mot moleskine. Je demandais à ma mère m'a dit « ça doit être quelque chose de pas très bien, tu sais, parce que... » Il vaut mieux pas le dire, moleskine. Quand on ne sait pas ce que c'est, on vaut mieux pas le dire. Hein. On ne va pas dire, par exemple, dans une soirée tranquille avec des gens, avez-vous déjà goûté de la moleskine? Alors, on ne sait pas ce que c'est. Ben, vous avez des gens qui disent, bénis-moi, sans savoir ce que veut dire le mot bénir. Vous voyez comment c'est ridicule? Qu'est-ce que ça veut dire, bénis-moi? Tiens, je ne vais pas vous le dire, vous allez m'écrire ce que vous en pensez. Non, je vais vous le dire. Bénir, ça vient de deux mots latins. Bene, ou bene, c'est comme vous voulez. Qui signifie bien. Ça signifie bien. Et dicere, ou dicere, je ne sais pas comment ils disent en latin, ça signifie dire. Bénir, ça signifie bien dire. Bénir, c'est prononcer les mots bien. Bénir, c'est un pouvoir que nous avons. Bénir l'Éternel, c'est dire tout l'amour que nous avons pour lui. Bénir l'Éternel, c'est proclamer tout le bien que nous pensons de lui. Bénir l'Éternel, c'est donner le témoignage en parole positive de tout ce que l'Éternel est pour nous. Excusez-moi, décidément. Alors, demander à Dieu de nous bénir, c'est bizarre, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà bénis. Il a dit que que il a fait tout ce qui est possible. Il ne peut pas faire davantage. Il est mort pour nous, il nous a pardonné, il nous a aimés, il nous protège, il a dit que nous étions l'objet de toute son attention, etc. etc. Il nous a bénis. Pourquoi voulez-vous qu'il nous bénisse encore plus? Qu'il rajoute quoi? Il a tout accompli. C'est une tradition illogique de demander à Dieu de nous bénir. Si vous lisez Éphésiens 1:3, vous allez voir qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est fait. Donc, si c'est fait, ce n'est plus à faire. Et demander à Dieu de nous bénir, c'est ridicule. C'est nous qui devons bénir l'Éternel. Et si je vous dis, c'est nous qui devons bénir l'Éternel, vous répondez quoi?
Amen.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, c'est juste. Mais vous pourriez aussi répondre à un autre mot hébreu qui est utilisé par les prestidigitateurs. C'est le mot abracadabra. En hébreu, abracadabra, ça signifie que cela se passe comme il est dit. Et si c'est dit bien, alors on peut dire abracadabra, que cela se passe comme il est dit. Ô Dieu, sois élevé, sois glorifié, que cela se passe comme il est dit. D'accord? Abracadabra. Quand je bénis quelqu'un, je peux ensuite dire abracadabra. Je bénis le frère untel, je le bénis, je le pardonne, qu'il en soit ainsi, que ce que j'ai dit arrive, que cela se passe comme je l'ai dit. Eh bien, en hébreu, ça se dit abracadabra. Si je maudis quelqu'un, je peux aussi dire abracadabra. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de maudire. Donc, si je maudis quelqu'un, vous n'avez pas le droit de dire abracadabra parce que je n'ai pas le droit de maudire. Vous ne pouvez pas vous joindre à moi pour dire amen ni abracadabra. Ok, d'accord, vous avez compris. Nous donnons donc à notre pensée de quoi comprendre des choses afin de mieux servir Dieu. C'est ça le but, non? Alors, question, puis-je maudire Dieu? Je peux dire des choses contre Dieu, je peux dire des horreurs contre Dieu, mais je ne peux pas le maudire en réalité. Pourquoi? Parce que tout ce que je pourrais dire de mal à son sujet, ça ne changera rien à Dieu, ça n'affectera pas Dieu, absolument pas, ça ne le touchera pas, ça ne l'effleurera pas, ça ne l'égratignera pas, parce qu'il est la perfection même et aucune malédiction ne peut l'atteindre. Voilà pourquoi vous aussi, aucune malédiction ne peut vous atteindre, parce que vous avez été lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut dire abracadabra une malédiction contre vous. Mais si vous maudissez Dieu, ou si quelqu'un maudit Dieu, comme rien ne se perd, parce que rien ne se perd, eh bien c'est sur la personne qui a maudit Dieu que cette malédiction retombe. Parce qu'elle doit bien retomber quelque part. Vous comprenez mes frères? C'est pas Dieu qui maudit les gens, c'est les gens qui se maudissent eux-mêmes. Moi je n'ai pas maudit Dieu. Non mais tu ne le bénis pas. Le fait de ne pas bénir Dieu, c'est comme le maudire. Oh! Ils ne le bénissent pas. Ils ne disent pas du bien de lui. Leurs actions ne disent pas du bien de lui. Et, abracadabra, cela se passe comme il est dit ou cela se passe comme il n'est pas dit. Comme il n'y a rien qui a été dit, eh bien rien de bon ne peut leur arriver. Car c'est abracadabra, que cela se passe comme cela a été dit. Et s'il n'y a rien qui a été dit, eh bien c'est rien qui va leur arriver. C'est-à-dire c'est du néant. Comme rien n'est dit, le résultat de la chose, c'est le néant dans leur vie. Le rien leur arrive du trône de Dieu. Le néant, c'est-à-dire rien de bon, rien de satisfaisant. Du néant saupoudré de religion et de superstition et d'émotions. Du néant, du rien. Du rien. De l'illogisme. Des actes religieux dépourvus de sens, un culte qui est parfaitement inutile, du blablabla, blabla, saupoudré d'émotions plus ou moins saines, de traditions, d'émotions, abracadabra égale vie insatisfaite. Voilà pourquoi ils sont insatisfaits. Et voilà pourquoi ils disent, mais il y a quelque chose qui manque, on ne sait pas quoi. Oh ben que Dieu nous éclaire, amen. Quelle heure il est? Passe-moi le sel. Cherchez, vous trouverez. Alors qui peut bénir l'Éternel? Eh bien pas tout le monde. Qui peut bénir l'Éternel? Ceux qui servent l'Éternel. On peut le dire ainsi. Ceux qui servent l'Éternel peuvent bénir l'Éternel. Mais le psalmiste y donne une identité à ceux qui peuvent bénir l'Éternel vraiment. psaume 134. Vous tous, serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Et mes frères et sœurs, il n'y a pas grand monde sur cette terre. Donnez-moi des adresses. Donnez-moi des adresses où il y a des gens qui servent Dieu la nuit, dans la maison de l'Éternel. Dans leur maison peut-être, mais dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, il faut que les choses soient rétablies. Mes frères et sœurs, l'Église doit se réveiller. Elle le doit parce qu'elle est en danger. Elle ne le sait pas parce qu'elle dort. Mais en ce moment, les Anakim sont en train de s'organiser pour un nouveau génocide, celui des Juifs et des chrétiens. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est rien à côté de ce qui va se produire. Ça ne va pas tarder. Ça arrive. Ça arrive, c'est là. Vous pensez que je déraisonne? Eh bien, vos yeux le verront. Vos yeux le verront. Nous sommes à la veille d'un nouveau génocide. Veillez et priez. Prophétisez. Annoncez cela, faites-le savoir. Nous sommes au temps où Dieu est en train de renouveler toutes choses. Mais qui c'est qui écoute les prophéties? Mais qui c'est qui écoute les prophètes? Ah, on écoutera le prophète qui va te dire « Tu vas faire un voyage ». On écoutera le prophète qui va dire « Tu vas te marier cette année ». Ou on va écouter le prophète qui dit « Tu vas devenir un grand serviteur de Dieu ». Mais y a-t-il eu une fois dans l'histoire un peuple qui a écouté les prophètes? Ceux qui parlaient de la part de Dieu pour l'histoire véritable. Élevez vos mains vers le sanctuaire, bénissez l'Éternel. Et le psalmiste ajoute une phrase pour ceux qui lisent ça et qui ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas des Monacos. Et il dit que l'Éternel te bénisse de Sion. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ont besoin de cette bénédiction qui vient de Sion. Parce qu'ils ont besoin d'être recadrés dans les Écritures. Ils ont une connaissance des Écritures, mais ils n'ont pas une certitude. Sinon, ils vivraient autrement. Que Dieu vous bénisse de Sion. Parce que c'est de là, c'est là que descendra Jésus-Christ. C'est là qu'il posera ses pieds, à Sion. Et voilà pourquoi tous les mauvais esprits poussent à l'antisionisme. C'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. Les Arabes sont aussi sémites. Vous comprenez? Ça n'est pas de l'antisémitisme qu'ils pratiquent, c'est de l'antisionisme. C'est différent. Mais qui c'est qui me croit? Qui c'est qui me croit? Quand je prêchais dans les années 60-70 que j'annonçais la mondialisation, les gens rigolaient. Qui m'a cru? Personne. Ouais, ma mère. Deux ou trois. Mais aujourd'hui, eh ben c'est la même chose, de même. Oh, wow, c'est pas possible. Mais non, Michel, tu crois. Un nouveau génocide juif, pardon, dis donc. C'est pas possible. Un nouveau génocide juif, mais c'est pas possible. Mais non seulement juif, mais chrétien aussi. Mais non, Michel. Mon frère, ma soeur, ne pêche pas par incrédulité. Écoute ce que je dis. Avec l'aide de Dieu, je vais retourner en Afrique avec mon frère Nicolas Savadogo en avril pour 20 jours d'évangélisation en Côte d'Ivoire, au Togo. Alors prions déjà, priez déjà, afin que les gens viennent à la lumière, sortent des ténèbres, que ceux qui sont les siens sortent des ténèbres. Nous sommes en train de faire sortir les gens du ténèbre et nous invoquons sur eux la bénédiction qui vient de Sion. Cette petite phrase qui est là à la fin du psaume 33. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est pour ceux qui sont encore dans les ténèbres que nous avons cette phrase. Et pour les chrétiens qui sont dans les ténèbres du sommeil, les yeux fermés, qui ne voyaient rien, puis qui sont là, alléluia, alléluia, mais qui dorment. Que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, alors que nous serons là-bas avec mon frère Nicolas. Vous savez, le diable n'aime pas Nicolas. Il le touche terriblement fort. Il l'attaque terriblement fort, mais il ne m'aime pas non plus. Mais on le lui rend bien, on le lui rend bien. Nous aimons Jésus-Christ, pas simplement en parole, mais aussi en action. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui s'est fait homme pour notre salut. Amen. Dieu n'est pas difficile. Il dit, si tu viens à moi, je te pardonne. L'homme sur la croix Il était là, cloué, sachant qu'il n'allait pas descendre vivant de cette croix. Hein. Et est-ce qu'il a demandé pardon? Non, il a dit, rappelle-toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que Jésus lui a dit, il faudra d'abord faire un stage pour apprendre comment on se repent en trois points et mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre du pasteur Schlonk du Canada pour que je puisse te pardonner si tu réponds aux critères doctrinaux corrects que j'ai établis moi-même en compagnie de mes 12. Non, il a dit aujourd'hui. Il n'a même pas demandé pardon. Mais c'est confiant en lui. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que les chrétiens ont tant de peine à se pardonner? Pourquoi vous avez tant de peine les uns avec les autres? Tout simplement parce que vous pensez que Dieu, il est comme vous. Vous ne croyez pas qu'il vous a pardonné facilement. Ça n'a pas été, je ne dis pas que ça a été facile, il est mort sur la croix, c'est une horreur. Mais maintenant, il suffit que vous approchiez de lui pour qu'il vous pardonne. Vous devez faire la même chose avec vos frères et sœurs. La même chose. Sinon, la vie dans le royaume de Dieu est impossible. S'il y en a parmi vous qui vous rendent la vie impossible, bénissez-les. C'est ça que ça veut dire. N'essayez pas d'arranger les bidons, de dire, mais pourquoi t'as fait ci, mais pourquoi t'as dit ça, mais moi j'ai pensé que, puis tu as dit que, puis moi j'ai compris que, puis alors... Non, non. Bénissez-les, c'est tout. Aimez-les, vivez avec eux, et continuez à vous enquiquiner. Tant pis, c'est pas grave. Votre service, votre louange à Dieu, c'est de les bénir, c'est de les aimer, c'est de les servir, c'est de leur donner tout ce que vous pouvez leur donner pour leur bien. Amen. Si vous ne le faites pas, c'est la preuve que vous pensez que Dieu est méchant. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est que vous pensez que Dieu ne fait pas ça pour vous. Qu'il est difficile, qu'il est dur, qu'il est exigeant, qu'il est doctrinaire, qu'il est cruel, qu'il est vicieux. Non, c'est vous qui êtes vicieux quand vous agissez comme ça. Soyez gentils, pardonnez facilement. Ce n'est pas difficile. Aimer, ce n'est pas difficile. Et puis ça vous rend plus heureux et ça vous rend moins malade. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous aider à avoir la possibilité de pratiquer ce culte jour et nuit dans ta maison. Un culte qui est logique, qui n'est pas hors de sens, qui est pratique, qui te glorifie, qui construit ton royaume, qui édifie, qui fait que la lumière peut poindre alors que les ténèbres sont vraiment fortes. Merci Seigneur Jésus de nous donner d'être davantage des saints. Afin que nous puissions briller véritablement comme la lumière. Tu veux que nous brillions. Eh bien, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous venons vers la source. Nous venons vers toi ce matin pour te demander de nous aider de briller davantage, d'être plus simple, d'être plus authentique, d'être plus vrai, d'être moins exigeant, de ne pas être plus royaliste que le roi, d'être comme toi, rempli d'amour et de bonté. Merci, Seigneur, de nous aider à construire, à être constructif, à consacrer nos jours et nos nuits pour le service dans le royaume et que nous ne comptions pas les efforts que nous faisons, mais que nous nous sachions toujours que tu es celui qui regarde ce que nous faisons et qui tient une comptabilité et qui saura nous récompenser, ici-bas déjà, mais aussi là-haut dans le ciel avec toi. Merci Jésus, sois béni pour cela mon Dieu. Veuille nous aider mon Dieu, veuille nous aider à être des gens sensés et non pas des sales gamins. Merci Jésus, amen.
Mon cher pasteur, je t'écris cette lettre pour te remercier pour ta consécration et pour ta dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ.
Hey, tant de pays visités pour témoigner et pour prêcher l'amour du Très-Haut. Tant de miracles nous assurent la vérité de la parole qui sort de ta bouche. Ô Seigneur Jésus, je te bénis pour m'avoir conduit. Thank you. n'appellent qu'un ami pour surmonter ses problèmes. Ce sont les coups durs qui font que l'on s'aime. Merci Michel d'être toi, cet ami c'est toi. La force et l'effort que l'on se donne nous encourage et nous inspire. À chaque étape on se pardonne et nous permet d'en